Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti! Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Salut Lisa, comment tu vas ?
Ça va super, super contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et on a décidé de traiter un sujet qui concerne sûrement pas mal de nos auditeurs et nos auditrices, c'est l'engagement étudiant. Est-ce que tu es engagée dans une association, toi ?
Oui, au sein de mon école, donc pour l'organisation du gala ou autre type d'événement. Et dans une junior entreprise, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, mais on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Et comme beaucoup d'entre vous, on se pose beaucoup de questions sur notre engagement, vers qui se tourner, vers quoi et surtout comment.
Et oui, car s'intégrer dans des associations, organisations étudiantes, c'est toujours être à 200% et ça peut paraître difficile, surtout quand on ne sait pas comment ça fonctionne, comment s'intégrer et quand on ne se sent pas légitime aussi, parce que parfois ça demande certaines compétences. Dans ce podcast, on veut vous parler de l'engagement en association étudiante, de ses bons côtés et des problèmes qu'on peut parfois y rencontrer pour lever le voile sur cette partie intégrante de la vie étudiante.
S'engager en tant qu'étudiant, ça peut être l'organisation d'un gala, comme pour toi Pauline, une association artistique, caritative, sportive, peu importe, ça peut être une prise de position qui contribue à la formation du soi, et généralement on retrouve aussi un groupe de personnes, ce qui nous permet de socialiser et rencontrer du monde avec des valeurs communes.
Ok, donc aujourd'hui on va commencer avec une définition de l'engagement.
S'engager, ça signifie surtout prendre des responsabilités, faire des choix, donner de son temps. En fait, c'est comme du bénévolat. Il y a un contrat tacite qui implique le don de sa personne pour une cause ou pour un événement. L'engagement, il peut être ponctuel ou alors s'étaler sur la durée.
Et donc, pour nous éclairer un peu plus sur ce moment charnière, nous avons invité Marie-Juliette. Bonjour Marie-Juliette.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire dans quelle association tu t'es engagée et quel est ton statut au sein de cette association ?
En effet, je m'appelle Marie-Juliette Caponi, je suis actuellement la vice-présidente étudiante de l'Université de Bordeaux. J'ai commencé mon engagement étudiant il y a 5 ans à l'association des psychologues étudiants, ce qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps pour en reparler, je crois.
Oui.
Et là, à l'heure actuelle, je suis vice-présidente en charge de l'éducation populaire, de la jeunesse, de la transition écologique au sein de la Fédération Athéna.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie, ce qui t'a motivé pour t'engager ?
Dans un premier temps, je voulais pas être toute seule à l'université et je me suis dit que rencontrer des gens, ça allait certainement passer par l'associatif. Puis j'ai fait un way, enfin voilà, un week-end d'intégration comme beaucoup. Et je me suis rendu compte que les gens de l'organisation étaient juste incroyables, étaient trop chouettes. On aurait dit une grande bande de potes. Et je me suis dit, mais moi je vis ça en fait pendant mes études à l'université. Donc peu de temps après, je suis allée toquer à la porte et je me suis dit, coucou, est-ce qu'il y a besoin de bras ? Et je suis devenue bénévole, donc dans un premier temps au sein de l'association du coup des psychologues étudiants, donc l'APE.
Ça demande un peu de courage de faire ça, d'aller au-devant. Comment t'as réussi à dépasser ? Je sais pas si t'es quelqu'un d'assez introverti de base ou t'as plutôt tendance à aller vers les autres ?
Alors j'ai mis un an avant de franchir la porte. J'ai franchi la porte du local quand j'étais en L2 et j'ai fait plein d'événements avec eux quand j'étais en première année, du coup en L1. Ils m'impressionnaient beaucoup parce qu'ils avaient plein de compétences, ils faisaient plein d'événements différents, que ça passait par les conférences, les week-ends d'inté, les galas, etc. C'était assez impressionnant de les voir faire tout ça. Et c'est vraiment en deuxième année, je me suis dit, pourquoi pas, si ça se trouve, ces compétences, en fait, je vais les apprendre là-bas. Et j'ai pris mon courage à deux bras, vraiment, même de tout le corps. Je me suis dit, j'allais toquer à la porte. Mais c'était pas évident, vraiment. On arrive dans un cercle où ils se connaissent. Souvent, il y a des anciens aussi. C'est pas évident dans un premier temps de briser la glace. Faut prendre un peu sur soi, se donner beaucoup de courage. Mais ils mordent pas, ils sont gentils.
Oui, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que le début de l'engagement, il est souvent accompagné d'un vif sentiment de motivation, d'envie. Il y a aussi notre intérêt pour l'association qui peut déclencher ce passage à l'action. mais il peut y avoir d'autres sentiments comme la colère, la consternation qui peuvent aussi être moteurs pour s'engager dans telle ou telle association. Et aussi la pression sociale, effectivement, si tout le monde est intégré dans une association, on a aussi envie d'en faire partie, et ça peut déclencher l'engagement chez certains étudiants.
Ouais, ça varie peut-être en fonction des écoles, des facs, par exemple Sciences Po, où il va y avoir beaucoup d'associations, où il y a cette pression-là peut-être un peu plus d'être engagé, et donc c'est une démarche qui permet de s'affirmer, et parfois en se détachant de la vie favorable ou défavorable de la famille et des amis. Et c'est aussi une émancipation qui permet de construire nos propres systèmes de valeurs. Donc on affirme ou on rejette des croyances apprises dans le milieu familial ou dans la société. Et du coup, Marie-Juliette, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'épanouit dans cet engagement? Et est-ce que ça a renforcé tes valeurs et ton identité?
Tout a commencé du coup à l'APE. Hein. Là, j'ai rencontré des étudiants qui étaient élus aussi au sein des... du coup, les conseils des facultés ou au sein du conseil collège, du coup, de sciences de l'homme. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une réelle politique étudiante, un réel engouement autour de qu'est-ce qui se passe, pourquoi les étudiants, ils sont pas forcément pris en compte, pourquoi on a ces matières-là sur ces quotas d'heures-là, pourquoi il y a des choses qui bougent, pourquoi il y a des choses qui ne bougent pas. Toute cette colère, en fait, je l'ai ressentie aussi au sein de l'asso, hein, c'est... Ça rebondit complètement avec ce que tu as dit juste avant. Moi, ce qui m'a vraiment décidé de continuer, d'aller à fond, c'est que je me suis aussi engagée du coup en tant qu'élue à l'issue, enfin même en même temps que l'associatif, parce que c'est de l'intérieur qu'on arrive à faire bouger les choses. Et donc, si on arrive à travailler avec des enseignants, avec des doctorants, chercheurs, aussi bien par l'associatif que par des portages de motions par rapport à des choses où on n'est pas d'accord au sein des collèges et que ce soit remonté après à l'université, etc. C'est là où on a un peu plus de poids et on se sent utile.
Se sentir utile, ouais, c'est vraiment quelque chose qui revient. Et aussi cette volonté de porter la voix pour les autres. Parce que je pense qu'il faut aussi un tempérament. Parce que bon, il y a beaucoup d'associations, on n'a pas parlé des associations artistiques, des associations sportives, où là, du coup, ça va peut-être être un peu différent en fonction de ce qui est fait. Mais là, toi, c'est vraiment porter la voix des autres. Peut-être, tu ressens peut-être de l'injustice parfois ou...
En fait, il y a des sujets qui vont être un peu touchy par rapport aux étudiants et à nos conditions. Enfin, concrètement, là, sur tout ce qui était précarité, par exemple, la précarité par rapport menstruelle, enfin, protection hygiénique, etc., on a mis presque 4 ans, enfin vraiment, pour se battre, pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Maintenant, ça y est, c'est fait avec le budget participatif étudiant. Mais en fait, faut constamment se battre. C'est constamment. Faut jamais lâcher le morceau. Et ça demande beaucoup d'énergie.
Mais c'est vrai que quand on n'est pas à 100% épanoui dans nos études, s'engager dans des associations, ça peut nous permettre de nous sentir plus en accord avec nos valeurs ou tout simplement explorer d'autres centres d'intérêt comme artistiques ou sportifs ou autres. En fait, l'engagement, d'une manière générale, ça nous permet d'ouvrir d'autres perspectives et aussi d'explorer de nouvelles compétences, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Et du coup, une fois que la décision de s'engager est prise, il faut faire un certain nombre de démarches, comme tu l'as dit, pour agir. Comme rencontrer un groupe d'étudiants déjà bien informés sur le sujet et donc se sociabiliser pour faire ses premières actions et donc adhérer à une association. Donc là, on va plutôt aborder le côté sociabilisation.
Mmh. Oui, parce que quand on s'engage, tu l'as dit toi-même, on rencontre des gens qui ont aussi des mêmes intérêts et ces rencontres, elles aident aussi à la formation de notre propre identité ou de notre propre affirmation. S'engager, c'est d'abord être reconnu par des pairs, c'est donner un sens à nos études et aussi à nos vies étudiantes. Ça nous permet de se réaliser, donc on a ce sentiment d'utilité dont on a parlé, mais aussi ce sentiment de capacité et donc de ressentir une certaine sensation de plaisir et d'épanouissement.
Comme tu l'as dit, ça t'a aidé à faire des rencontres. Est-ce que ça t'a aidé à te faire des amis aussi? Comment ils t'ont accueilli? Parce que tu as beaucoup parlé de toi, faire le pas et la difficulté que tu as eue. Mais comment ils t'ont accueilli en face? Est-ce qu'ils étaient contents d'avoir des nouvelles petites mains?
Avec beaucoup de formation, beaucoup de gentillesse et tout en douceur, vraiment. Ça a été des longs moments d'échange par rapport justement à notre engagement, ce qu'on était prêt à y mettre et ce qu'on était prêt à y faire, parce qu'il y a vraiment différentes formes aussi d'engagement. Au niveau de l'intensité, il y en a, ils vont mettre, je sais pas, 20 heures par semaine, il y en a d'autres, ça va être 2 heures max. Donc voilà, on a eu beaucoup d'échanges par rapport à tout ça. Et au niveau de la sociabilisation, oui, je me suis fait des amis. Après, comme toute amitié, elles se font, elles se défont, hein, mais parce que aussi, on fait des choix aussi en associatif, et puis même au bout d'un moment, on partage plus forcément les mêmes idées et les mêmes valeurs. Donc, par moment, ça se défait, et puis ça peut se défaire grave même. Mais à l'heure actuelle, j'ai mon meilleur ami, ça fait 4 ans, on s'est rencontrés à l'association des psychologues étudiants et on est très très proches, on est très amis et on se voit très très fréquemment. Quand on arrive, de toute façon, en général, on est bénévole, enfin voilà, c'est petites mains, nous on appelle ça les pio, c'est des tout nouveaux. On peut s'intégrer sur certains projets, on va juste donner des coups de main, enfin ça va juste être ça. Puis au fur et à mesure, on nous demande si on veut prendre un poste dans l'association. Commencer par la présidence ou la vice-présidence, c'est vraiment pas la meilleure façon parce que c'est bien d'avoir déjà une idée de l'association en amont, de comment ça se passait, etc. Mais bon, après ça se fait et il y en a qui s'en sortent extrêmement bien, il y a beaucoup d'exemples, hein. Mais ouais, non, juste commencer sur des petits pôles au début pour donner des coups de main, faire des visuels, préparer des événements, ça se fait tout en douceur.
Cependant, l'engagement peut être un moyen que l'on utilise pour échapper à la solitude et à certains cycles de pensées négatives. On est alors dans une hyperactivité au sens propre du terme qui nous oblige à toujours remplir son emploi du temps et donc à ne plus prendre du temps pour nous. Nous allons donc aborder l'aspect organisationnel de l'engagement. Comment s'organiser au mieux pour ne pas se sentir dépassé ?
Oui, parce que tu l'as dit, certains ont tendance à prendre plus de temps de leur quotidien pour les associations. Ça dépend des personnalités, ça dépend de la volonté aussi et des capacités. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la connaissance de nos limites et de savoir jusqu'où on peut s'engager.
Parfois, un engagement peut se transformer en charge mentale quand on se retrouve trop investi dans un projet. Il devient alors difficile de trouver de l'espace pour d'autres aspects de notre vie étudiante, comme les cours et la vie personnelle. Et pourtant, c'est essentiel de trouver un équilibre, car une surcharge peut causer des problèmes d'anxiété, de stress, de déprime et de fatigue.
Et à terme, ce stress constant peut mener à une dégradation de la santé mentale et plus généralement de la santé, mais aussi sur notre engagement associatif, avec une détérioration des relations avec les autres membres ou une démotivation. Comme nos collègues sont aussi souvent nos amis, comme on l'a vu, ça peut aussi entraîner une mauvaise communication et des tensions dans nos relations personnelles. Pour ça, on a eu un témoignage d'un étudiant qui aimerait nous parler un petit peu de comment lui, il a pu vivre son engagement et l'organiser avec son quotidien.
C'est vrai que j'ai été engagé longtemps dans l'humanitaire et il y a cette volonté d'aider qui me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment cette volonté voilà, d'être là pour les gens et j'avais l'impression d'être dans des missions qui soient concrètes, c'est ça. Et le problème, bon, mais c'est que j'ai enchaîné mission sur mission et toujours finalement dans cette volonté d'aider, toujours dans cette idée en fait pour les autres et j'ai perdu pied. Je pense que on arrive à un point, un moment de non-retour où on se rend compte que la vie associative a pris le dessus sur la vie étudiante, sur la vie sociale et même sur les cours en général et c'est ce recul en fait qu'on n'a pas quand on est jeune, quand on est étudiant et c'est ce recul qu'on ne sait pas forcément prendre et qu'on apprend pas toujours de la meilleure des manières voilà.
En s'engageant, il peut être intéressant de prendre conscience de nos traits de personnalité et de nos caractères. Une personne avec un comportement évitant ou quelqu'un qui a l'habitude de se surcharger va parfois prendre ses postures dans l'engagement associatif. Et donc prendre conscience de ses comportements, c'est réussir à prendre du recul et à gérer des situations plus facilement quand il y a des tensions.
Et avant d'en arriver là, il est aussi nécessaire de faire un effort pour écouter ses émotions et comprendre où est notre limite. C'est normal de se tromper, d'expérimenter, mais il est important de savoir se retirer quand l'engagement devient trop pour notre santé mentale. Tu pourras t'engager mieux si tu te préserves ton énergie et que tu te déculpabilises aussi.
Et si tu n'as pas le temps, ce n'est pas un drame. Tu pourras toujours le faire plus tard. Anticiper en avance les phases de travail, donc rendu de mémoire, d'exposé ou de travaux d'écrit notamment. Visualiser ces échéances à l'aide d'un tableau ou d'agenda. Ça peut permettre donc de mieux s'organiser. Et si tu as envie de t'en savoir plus, n'hésite pas à écouter notre podcast sur l'organisation en période d'examen, sachant que comme on l'a dit, l'engagement, c'est vraiment par période. Tout d'un coup, on va avoir beaucoup de temps, parce qu'il faut gérer aussi avec notre emploi du temps de cours. On va avoir beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, puis la semaine suivante, pas du tout. Donc parfois, ça peut être assez déroutant.
Et puis comme on est face à des personnes qui sont souvent notre cercle social, ou même nos amis ou meilleurs amis, comme tu l'as dit, on peut se retrouver dans des cadres un peu compliqués. Est-ce que toi, Marie-Juliette, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation compliquée où les relations amicales se sont mêlées avec les engagements de l'asso?
Pas qu'une fois, j'ai envie de dire, surtout quand on se retrouve dans des petites associations de filières. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Souvent, les dramas, comme on les appelle, entre certains membres de l'asso, parce qu'ils sont amis à l'extérieur ou même ensemble ou quoi, machin, ça peut totalement déborder aussi sur le travail, en fait, de l'asso. Donc, faire la scission un peu, c'est ce qu'on dit. Il faut faire la scission entre vie perso et vie pro, enfin, plutôt vie associative, du coup. Mais c'est vraiment pas évident sur certains moments quand... Ouais, quand on a certaines personnes qui se fritent.
Mais c'est les caractères qui, comme on disait, il y a différents types de caractères et parfois garder son calme, prendre sur soi, c'est difficile parce que ce sont des personnes en plus qu'on croise très souvent en dehors de l'association. Parfois, ça peut peut-être même prendre beaucoup de place dans les discussions entre amis. On parle presque que de ça. Ouais, tu l'as ressenti ?
Nous, on essaye de faire un truc avec mon meilleur ami parce qu'il est aussi VPE, donc vice-président étudiant de campus sur la Victoire. On essaye de se mettre un peu des règles en mode là, ce soir, on se voit, mais par contre, hors de question, on parle ni asso, ni fédé, ni université, on parle rien. On parle de nous, on parle... fait des jeux, on fait autre chose, enfin voilà, on profite. C'est dur, même quand on va boire un verre avec nos potes, s'ils sont issus d'asso, même de d'autres asso, et encore plus depuis que je suis à la Fédé, on a fortement tendance à parler asso, à dire « Ah, mais vous, du coup, vous en êtes où dans votre événement? Vous avez besoin d'un coup de main? Vous avez réussi à réserver ci, ça, machin ?» Enfin, c'est vraiment des temps aussi, ces temps informels, ça permet aussi de faire des bilans et c'est important. Et même de partager nos expériences si on n'est pas issu de la même association et de dire « Ok, alors on n'est pas les seuls à être dans ce cas de figure, on n'est pas les seuls à s'engager trop ou beaucoup. » On n'est pas les seuls à avoir mis nos études de côté et avoir redoublé. C'est rassurant aussi dans un sens où il y a d'autres personnes qui sont aussi investies comme nous, qui ont envie en fait de continuer à s'investir de cette manière-là. Et c'est très déculpabilisant aussi de se dire bah voilà. Et en plus on fait bouger les choses tous ensemble. Il y a plein d'événements qui sont réalisés et pour les étudiants et on est super fiers aussi de ce qu'on réalise.
Mais du coup, oui, ton travail a pris un coup, ouais, clairement.
Ah, mais moi, du coup, j'ai dû démissionner. Je suis animatrice périscolaire depuis 4 ans aussi, depuis mes études. Et pour pouvoir cumuler mon poste à la Fédération Athéna et pour pouvoir prendre le rôle de vice-présidence étudiante à fond, surtout au début, parce que c'était changement d'équipe au niveau de l'Université de Bordeaux, il me fallait du temps. Et ce temps-là, j'ai dit, j'arrête de travailler au centre de loisirs où j'étais, c'est fini. Et comme je suis en décrochage universitaire depuis le mois de novembre, ça m'a libéré du temps, mais je fais des très grosses semaines, du coup.
Et tu sens que ça peut être valorisé, quand même, ce que tu fais ?
Oui, alors on a quand même beaucoup de reconnaissance dans notre équipe. On se rend compte que on est tous quand même engagés à notre manière, que les choses qu'on a envie qu'elles soient faites, elles sont faites, pas forcément de la manière dont on veut, parce qu'en général, on est quand même assez exigeant. Moi, je suis extrêmement exigeante et j'ai tendance à râler quand c'est pas fait comme je veux. On apprend à faire avec aussi, hein. C'est la frustration, on apprend à la gérer, à connaître ses limites. Tout à l'heure, c'est ce que l'une de vous disait justement par rapport aux limites. On apprend au fur et à mesure, soit à les dépasser, soit à voir, là on y est, on est en plein dedans, et apprendre à faire des pauses. Mais au niveau de la reconnaissance, on l'a sur certains événements avec des étudiants qui vont nous remercier au sein de notre équipe, même au sein des élus et des étudiants en général, des institutionnels, ils sont quand même assez reconnaissants de certains événements qui sont réalisés ou même quand on a l'épicerie sociale et solidaire qui est ouverte, les étudiants qui y sont bénéficiaires, c'est du bonheur aussi pour eux de pouvoir faire leurs courses et nous, on est heureux de lutter contre la précarité étudiante. Donc, on a de la reconnaissance, mine de rien.
Cette reconnaissance, elle est super importante, mais selon les filières, on va se retrouver face à différentes problématiques. Certains ressentent notamment la pression de réussir à se démarquer professionnellement et justement en se démarquant par leurs engagements personnels.
Donc l'engagement peut être un véritable entraînement à la vie professionnelle. Et si on a peur dans le milieu pro, c'est aussi un moyen de prendre conscience de ses envies, ses limites et les affirmer face aux autres en apprenant à dire non, à demander de l'aide et à se responsabiliser. Marie-Juliette, comment tu as réagi face à un échec, si tu en as déjà eu ? Comment le manque d'organisation, les annulations, le peu de participants peut donner un coup au moral parfois ? Et comment tu arrives à prendre de la distance par rapport à ça ?
C'est très dur, vraiment. Quand on voit qu'un événement, au final, on se dit ouais, « on va attendre 100 ou 150 étudiants » et qu'au final, il y en a 20. Moi, j'ai envie de recommencer à chaque fois et de me dire, c'est pas grave, on va s'en sortir. Ça sera mieux la prochaine fois ou ça a péché dans l'organisation, on a fait de la communication trop tard. Ou, je suis dans ce mood-là un peu de dire, bon, on refait.
Parce que t'apprends à chaque fois.
Mais en fait, c'est ça. On gagne tellement en compétences au fur et à mesure. Le premier événement qu'on peut faire, on a oublié de réserver la salle. Tout le monde se pointe, t'as pas de salle. Tu fais, oups. Enfin, voilà, c'est... Ça arrive, on s'habitue au fur et à mesure. On pense que la dernière fois j'avais pas pris la rallonge, du coup on était embêté, on pouvait pas charger nos ordi, du coup on était un peu bloqué. On a dû trouver notre solution. Bah la prochaine fois on pensera à la rallonge. Et c'est des choses comme ça où en fait plus tu fais, plus tu vas t'améliorer. Mais ça sera jamais parfait. Enfin on va toujours avoir un couac. Par moment on va oublier les éco-cups pour la bière ou pour les boissons. Enfin c'est des trucs où on se dit, mais c'est pas possible, c'était dans la to-do. Ouais, bah, ça nous arrive aussi. Enfin, on est humain, on oublie. Faut avoir cette capacité, comme quand on tombe à cheval, de remonter de suite, parce que sinon, on lâche. Mais surtout, on est une équipe. On n'est pas tout seul. On dédramatise grave la situation. C'est pas grave. C'était un événement, c'était le premier, le deuxième, le troisième. Il y a toujours des couacs.
Oui, et puis si on a un coup de mou, on peut se reposer un peu plus sur les autres. Chacun prend le relais à son tour et... Comment le soir, par exemple, parce que généralement le soir on rumine tout ce qui s'est passé dans la journée, la veille d'un événement, etc. Comment, quand tu vas te coucher, t'arrives à prendre du recul? On a donné 2-3 tips avec l'organisation. Déjà, bien gérer son emploi du temps, prendre de l'avance. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on arrive après le lycée. Enfin, pas tout le monde. Donc déjà, on apprend beaucoup en organisant les choses. Comme ça, on est moins stressé. Mais comme tu le dis, on pourra pas tout prévoir. Donc, comment tu arrives à te détendre, à couper ton cerveau de tout ce qui se passe comme ça dans l'association ?
J'y arrive pas. Non, c'est dur, hein. C'est très très dur, surtout veille d'un événement ou même le soir d'un autre événement. Moi, j'ai tendance à rêver de ce qui s'est passé de ma journée, s'il y a eu un gros temps fort, et d'être encore dedans. C'est fort en émotion, et moi, j'avoue qu'au niveau de contrôle de mes émotions, c'est pas évident. Je vais peu dormir, je vais être assez angoissée, mais je vais être aussi excitée que ça se passe.
Ouais, c'est un mélange un peu tout.
Ouais, mais j'ai pas de tips de dire bon, ben j'arrive à poser mon cerveau. C'est pas vrai. Vraiment.
Et c'est tout à fait normal.
Du tout.
Mais déjà que tu gardes cette motivation de vouloir faire mieux la prochaine fois, ou cette excitation de le demain, ça y est, c'est le jour J, c'est hyper important de prendre ça en compte et ça peut aussi motiver ceux qui nous écoutent.
Je pense que revenir à ces valeurs, les choses qui ont fait qu'on a voulu le faire au début, c'est essentiel quand on a un coup de mou. Et peut-être se dire que... on a fait plein de choses bien, se rappeler de ce qu'on a bien réussi. Et sinon, bah, les tips de détente, quoi, comme on a pu donner dans le podcast sur l'anxiété, je pense que ça peut beaucoup aider dans des périodes comme ça compliquées où il va y avoir beaucoup d'émotions fortes, comme tu le disais. Moi, je me rappelle quand je gérais un événement comme ça la veille, je buvais pas de café, hein. J'avais peu dormi et j'avais le cœur qui palpitait à fond. Mais l'adrénaline monte très très vite pour nous tenir en éveil pendant tous ces jours-là. Et après, ça redescend d'un coup. C'est normal. Et je pense que plus on est dedans, plus on arrive à gérer ça. Parce que justement, on gère tous les petits couacs.
Mais c'est sûr que dans tous les cas, être dans une association, c'est apprendre. Ça peut être apprendre à gérer un budget, à suivre l'organisation d'un projet, investir son temps, retrouver ou trouver ses valeurs. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur, de s'engager dans un premier temps pour une première expérience, mais on est toujours accompagné dans notre travail. Ça peut être, comme toi, tu l'as dit, par d'anciens membres, ça peut être par l'administration ou encore par des organisations d'aide aux associations comme Athéna dont tu fais partie ou encore AnimaFac ou plein d'autres organisations qui existent sur le campus. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre engagement, il est bénéfique seulement s'il nous tient à cœur. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps pour bien y trouver sa place pour qu'on puisse bénéficier au maximum de notre engagement.
Et pour bien choisir son engagement, il ne faut pas hésiter au début de l'année à assister au forum de présentation dans la fac ou plus largement sur le campus, suivre l'activité sur les réseaux sociaux et surtout échanger avec les anciens. Ça vous permettra de mieux appréhender la charge de travail demandée et s'organiser en fonction de nos capacités. Donc ce qu'on disait avec le créneau de « moi j'ai 2 heures par semaine, moi j'en ai 20 », ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il ne faut pas oublier qu'il y a différents pôles dans les associations. Si on est plus communication, on va aller dans la communication. Si on est plus, je ne sais pas justement, la direction, avec du recul, ça va plus être au niveau du bureau, du noyau dur, on va dire. Donc il y a un partage des tâches, il y aura peut-être toujours quelque chose qui nous plaira dans l'asso.
Et si on ne sait pas vers quoi se diriger, on trouvera toujours quelqu'un qui pourra nous apprendre. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Marie-Juliette de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous voulez nous rejoindre pour un prochain podcast, abonnez-vous à notre compte Instagram Espace Santé Étudiant BDX pour recevoir toutes nos informations.
Merci Lisa de m'avoir accompagnée pour cet épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être Étudiant On Air sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast pour ne rater aucun épisode. Merci surtout à Marie-Juliette d'être venue. On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.
Merci à tous, à bientôt.